Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Alexandrine Rolognon à ce micro en direct de Washington et chaque semaine nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur l'impact des crises sécuritaires sur l'environnement au Sahel. Certaines ressources se raréfient pendant que des populations sont obligées de fuir leur milieu de vie. À suivre le reportage de Gilles Da qui s'est entretenu avec divers experts et a recueilli les témoignages des déplacés. Notre invité analysera les effets des attaques terroristes et les déplacements des populations sur l'environnement au Burkina Faso et dans la région du Sahel. Et nous irons ensuite au Mali pour évaluer l'impact de la crise sécuritaire sur les activités de pêche dans le centre du pays. À Mopti, plusieurs pêcheurs ont été contraints d'abandonner cette activité, nous dira notre correspondant Mac Tal. Le fait marquant de la semaine, c'est le 64e sommet de la CEDEAO qui s'est tenu le week-end dernier à Abuja, au Nigeria. Sur le plan politique, la transition au Niger était le dossier phare. Les sanctions contre le pays sont maintenues. Comment réagit-on à Niamey? Nous retrouverons un journaliste dans la capitale nigérienne. À suivre enfin le reportage de notre correspondant au Mali, Mohamed Danioko, qui nous parlera de la 8e édition du Festival du Vivre Ensemble de Tombouctou, qui réunira des milliers de personnes. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Au Burkina Faso, les attaques terroristes qui durent depuis près de 8 ans ont des conséquences sur de nombreux pans de la vie du pays. Si les secteurs les plus souvent cités sont l'économie, les infrastructures, l'enseignement, un secteur clé comme l'environnement semble souvent oublié dans la stratégie de reconquête du pays. L'impact du terrorisme sur l'environnement est pourtant un fait réel que notre correspondant au Burkina Faso a cherché à élucider. Suivez ce reportage de Gilles Dasta.
Le 1er décembre dernier, devant l'Assemblée législative de transition, le premier ministre burkinabé tient son discours sur la situation de la nation. Durant de longues minutes, Apollinaire Kilem ressort les défis actuels du Burkina. Mais l'homme n'évoquera pas un sujet pourtant pas des moindres dans ces périodes d'insécurité. L'environnement, un pan des défis qui va lui rappeler la députée Awa Fofana.
Aujourd'hui, le contexte d'insécurité au niveau du Burkina Faso impacte fortement l'environnement. L'environnement est fortement dégradé.
Et sur les questions d'environnement, la députée en connaît un rayon. Elle est d'ailleurs officier des services des eaux et forêts. Nous la retrouvons après la séance du jour.
Notre environnement est fortement dégradé. Non seulement par notre mode de production et de consommation ou notre mode d'utilisation de nos terres, mais également par les questions de terrorisme aujourd'hui qui impactent fortement sur l'environnement. Il faut forcément faire d'abord un état des lieux. Aujourd'hui, il est question de l'intégrité, de la restauration de l'intégrité du territoire. Mais à la fin, il sera également question de la restauration de l'environnement.
Environnement fortement dégradé par l'insécurité, mais aussi des populations locales privées d'accès à des ressources environnementales. Pour en avoir une idée claire, direction Kaya, à 100 km de Ouagadougou. Ici, des milliers de personnes ont dû partir de leur village. Pendant de longues périodes, bon nombre comme Amadou Sawadogo n'avaient plus accès aux ressources environnementales qu'ils exploitaient avant.
Notre village avait bénéficié d'un château d'eau car il y a une étendue d'eau non loin de notre zone. Tout allait bien, nous produisons en quantité et les femmes venaient vendre à Kaya ici. Mais moins d'un an après, on ne pouvait plus aller travailler dans nos périmètres irrigués. Jusqu'à présent, c'est dangereux d'y aller, sauf si les FDS vous accompagnent. Cette eau était l'essence même de notre vie, de nos productions maraîchères. Ce qui est arrivé, c'est vraiment du gâchis. Notre vie a été détruite. Certains d'entre nous ont essayé de repartir travailler là-bas et ils ont été tués. Impossible d'aller aussi exploiter nos brousses, on n'y a plus accès. Vous savez, même pour se soigner, on allait chercher les plantes qu'il nous fallait. Maintenant, on est obligé d'aller dans les environs des villages plus sécurisés pour cela.
À Dablo aussi, Les brousses sont inaccessibles du fait de l'insécurité. Pourtant, ces étendues d'arbres et autres plantes étaient de véritables viviers pour les populations avant qu'elles ne fuient ce village où vivaient Patenema Kagone et les siens.
La majorité de nos biens c'était dans la brousse. Nos animaux et autres y vivaient. Nous-mêmes, nous menions toutes nos activités là-bas. C'était rare qu'on vienne dans le village, à moins d'avoir besoin de quelque chose de spécifique.
Installé à Kaya depuis plus de 2 ans, l'homme va y vivre un autre calvaire, l'attaque d'un poste d'approvisionnement du lac Dem par les terroristes. C'est ce lac qui dessert la ville en eau. C'était en mars dernier et Kaya était privée d'eau courante durant une très longue période.
La coupure de la desserte en eau a duré près de 2 mois. Durant ce temps, c'était très difficile. Vous pouvez passer des heures devant des fontaines avant d'avoir de l'eau. Dans notre zone, il y avait une seule fontaine et c'est pas à tout moment qu'on pouvait avoir de l'eau.
La desserte en eau de la ville a repris depuis. Mais dans de nombreuses zones du pays, les ressources environnementales ont été fortement dégradées du fait de la crise sécuritaire qui traverse le pays. Une situation qui joue aussi bien sur les hommes, la flore et la faune. Gildas Da de retour de Kaya, VOA Afrique.
Et nous l'avons au bout du fil dans cette émission, l'auteur de ce reportage, Gildas Da. Bonsoir Gildas.
Bonsoir Alexandrine.
Vous l'avez remarqué et soulevé dès le début de votre reportage, l'environnement est un secteur quelque peu négligé dans les plans de lutte contre l'insécurité et de la reconstruction des zones affectées. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette situation ?
Alors, Alexandrine, je pense que cela peut s'expliquer un peu par ce qu'on appelle ici les priorités. D'abord, il faut faire face aux attaques, aux menaces directes liées au terrorisme. C'est-à-dire, il faut repousser les attaques, il faut sécuriser les convois, les villages et prendre aussi en compte les personnes déplacées internes. Donc, vous voyez que face à toutes ces priorités-là, tout ça, ça requiert des moyens financiers. Ben, face à tout ça, la protection de l'environnement ou sa restauration, ça passe un peu par perte et profit, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, la preuve, c'est que le Premier ministre, dans son discours, n'avait même pas évoqué le sujet. Et les fonds assez limités d'un pays comme le Burkina Faso font passer un peu l'environnement au second plan. Pourtant, Alexandrine, c'est un domaine, c'est un peu dommage parce que c'est un domaine assez important. Parce que les problèmes d'accès aux ressources naturelles peuvent être aussi source de conflits entre des groupes sociaux. Et au Burkina, on l'a vu bien avant le terrorisme entre les cultivateurs et les éleveurs. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Il faut qu'on travaille à déconstruire cela, sinon ça va continuer.
Au-delà des actions qu'on peut espérer du gouvernement burkinabé, par exemple, est-ce qu'il y a des ONG ou des initiatives privées qui mènent des actions dans ce sens ?
Oui, Alexandrine, je peux vous parler du cadre d'une initiative privée. Il y a des personnes, des groupes de personnes, des personnes individuellement qui se battent pour apporter ce qui peut l'être. Donc, je vous donne un peu l'exemple de Clark Longreen, qui est un Américain installé au Burkina depuis plus de 60 ans. Donc, il a recueilli, si je peux m'exprimer ainsi, et il élève dans un lieu des animaux sauvages. Donc, ce qui arrive un peu, il fait en sorte que ces animaux arrivent à se reproduire parce que pour lui, il est important que ces animaux sauvages puissent perpétuer leur espèce. Vous savez aussi, le conflit a joué aussi sur ces animaux-là qui ont aussi fui des grandes forêts du Burkina du fait des combats. Mais aussi, on sait aussi depuis un moment qu'il y a des braconnages pratiqués par les groupes armés terroristes parce qu'ils veulent se nourrir. Donc, malheureusement, ce type d'action que mène Longreen, ça reste un peu à un état insuffisant. Et il va falloir plus d'engagement d'ONG sur le sujet.
Pour ce reportage, vous avez recueilli des témoignages poignants des personnes qui subissent l'impact même de cette négligence de la protection de l'environnement. Est-ce qu'il y a un fait ou un épisode qui vous a marqué pendant la réalisation de ce reportage, Gildas ?
Oui, l'épisode qui m'a surtout marqué, c'est celui des ressortissants de Dablo. Parce que, vous savez, un peu en Afrique, un peu sous nos tropiques, tout se passe dans la brousse, tout se passe dans la forêt. Même pour le passage du jeune garçon à l'adulte, tout se passe dans la brousse. Donc, quand vous discutez avec des personnes qui vous disent que toute leur vie était en fait basée sur les étendues d'eau grâce auxquelles ils arrivaient à produire et à se nourrir, et sur les brousses et sur les forêts grâce auxquelles ils arrivaient aussi à manger, et surtout grâce auxquelles ils arrivaient à se soigner, et que du jour au lendemain, ils ne puissent plus atteindre ces forêts, ils ne puissent plus rentrer dans ces forêts, dans ces brousses, ou atteindre ces étendues d'eau là pour pouvoir même boire, ça devient compliqué. Donc vous avez des personnes qui étaient dans leur village, qui s'en sortaient bien économiquement, qui se battaient, qui produisaient et qui n'avaient rien envié des gens qui se retrouvaient dans les grandes villes et qui se sont retrouvés du jour au lendemain expulsés de leur village parce qu'ils n'avaient plus accès aux ressources et parce que tout ça, ça a été verrouillé à un moment donné, qui ont été obligés de fuir. Donc forcément, ça vous touche quand vous rencontrez des personnes comme ça. C'est le cas de monsieur Kabone qui parle dans le reportage.
On a vu dans le reportage. Je vous remercie pour ces partages, Gilles Dasda.
Merci.
C'était Gilles Dasda, un de nos correspondants au Burkina Faso. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à cette émission en nous laissant des commentaires dans le live qui est diffusé en ce moment même sur la page Facebook de VOA Afrique. Et pour une analyse de ce sujet, de ce thème sur la protection de l'environnement en situation d'insécurité, nous allons retrouver notre invité Moussa Zerbo. Il est le coordinateur du mouvement pour la protection de la forêt de Koua, toujours au Burkina Faso. Bonsoir Monsieur Zerbo.
Bonsoir Alexandrine.
Merci de nous rejoindre. Tout d'abord, quel effet le terrorisme et l'insécurité ont-ils sur l'environnement dans votre pays et au Sahel d'une manière générale?
Ben, il faut dire que les effets sont énormes et il faut le reconnaître. Les causes à effet sont de plusieurs ordres. Et lorsque nous prenons des régions chez nous telles que l'Est, la boucle du Mouroun, les Cascades, le Sud-Ouest et dans une moindre mesure les hauts bassins, lorsque vous voyez un peu, les terroristes avaient élu domicile dans ces forêts et ils étaient réfugiés là-bas et c'était le lieu de tout faire. On se rappelle cette fameuse forêt de Kabonga dans la Compiègne où il y avait des exactions. Donc, entre-temps, des forêts classées avaient été pénétrées par des terroristes qui les occupaient. On ne pouvait plus contrôler ce qui s'y trouvait. Et aussi, des trafics s'y passaient à l'intérieur de produits nocifs. Voilà, tels que des produits qu'on utilisait pour l'extraction de l'or. Il y a des produits aussi qui étaient utilisés pour la fabrication des objets explosifs. Vous comprenez que tout ça, l'utilisation de ces produits-là ont des effets sur l'environnement. Donc, on ne peut pas nier les relations de cause à effet qui existent entre le terrorisme et le danger qu'il y a comme menace sur notre environnement, que ce soit au Burkina Faso ou bien dans les pays, les autres pays du Sahel en général.
Tout à l'heure, notre correspondant au Burkina Faso nous donnait l'exemple du gouvernement burkinabé qui dispose de peu de moyens pour prendre à bras le corps ce problème. Mais y a-t-il des actions qui sont menées sur le terrain, du côté du Burkina Faso notamment, de la part du gouvernement précisément?
Oui, des actions sont menées parce que ces temps-ci, lorsque vous suivez avec nous, il y a une offensive qui est entreprise par les autorités de la transition pour reconquérir l'ensemble du territoire du pays. Et vous savez que de cette reconquête, il y aura forcément le contrôle de ces forêts-là. Donc nous pensons que beaucoup d'actions sont menées par nos autorités pour pouvoir reconquérir le territoire. Et du coup, ces forêts-là pourront être réhabilitées et pourront être restaurées. Et déjà, avec les actions entreprises, avec le chef de l'État qui est lui-même d'esprit sankariste, vous voyez un peu que la cause de l'environnement n'est plus une cause individuelle, mais une cause des communautés, où lui-même, il invite à moindre occasion pour que des reboisements puissent se faire. Et vous avez vu, pour ce qui est de mon cas, la forêt, par exemple, de Koua, dont mon mouvement s'en occupe. Vous avez vu les efforts qui ont été fournis pour pouvoir protéger.
Justement, j'aimerais m'intéresser un tout petit peu à ce que fait concrètement votre mouvement au niveau de la forêt de Koua. Que faites-vous comme action?
Nous disposons d'outils de plaidoyer auprès des autorités. Un accent particulier, on met sur ce qu'on appelle, par rapport à l'insécurité, nous sommes confrontés à autre crise que tout le monde sait. On a bien peur qu'après la crise sécuritaire, qu'on soit confronté justement à la crise écologique. Donc par rapport à cela, nous avons beaucoup d'outils sous la main que nous menons auprès du grand public, notamment des actions de sensibilisation, des actions de communication. Et dans ces jours, nous allons mener des actions sur les pollutions avec les métaux lourds dus aux objets technologiques qui ne sont pas suffisamment recyclés et qui peuvent être une menace plus tard. Donc, c'est pour vous dire, nous communiquons beaucoup, nous menons des actions de plaidoyer auprès des autorités et pour que justement la question de l'environnement puisse être une question prioritaire, une question primordiale pour nous.
Monsieur Zerbo, vous êtes à Ouagadougou, on sait que la COP28 s'achève aujourd'hui même du côté de Dubaï. Est-ce que vous avez pu suivre un tout petit peu les discussions autour de la réduction ou non des énergies fossiles et ce que le Burkina Faso attend concrètement des partenaires en ce qui concerne la préservation de l'environnement ?
Oui, effectivement, j'ai suivi la question de l'élimination progressive des combustibles fossiles au détriment des énergies renouvelables. Et la question de la résilience est venue. Voilà, la question de la résilience au changement climatique et la garantie du soutien pour financer les pays dites vulnérables. En tout cas, j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt et je pense qu'il y a lieu justement que nous puissions changer de façon de voir. Vous savez que le Burkina Faso est dans cette résilience, c'est pas aujourd'hui. Donc il faut effectivement qu'on arrive à prendre à bras le corps la question de l'utilisation des énergies renouvelables. Vous voyez, nous, chez nous, nous sommes un pays de soleil. Et l'énergie solaire est utilisée un peu partout.
Absolument. Donc, vous dites c'est le moment de le rappeler. Je vous remercie, Monsieur Moussa Zerbo. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du mouvement pour la protection de la forêt de Kwa au Burkina Faso.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Et merci à vous qui nous suivez à travers les plateformes digitales de VOA Afrique et via nos médias partenaires. Rendons-nous maintenant au Mali pour parler du secteur de la pêche dans la région de Mopti. Bien avant la crise sécuritaire, la pêche était la principale activité génératrice de revenus dans le cercle de Yuwaru. Beaucoup profitaient du dynamisme du secteur, mais la crise sécuritaire a porté un coup dur à la pêche. Reportage de Makital à Mopti.
Situé au cœur du delta central du Niger, Yuwaru était une zone de pêche par excellence. Cependant, la crise sécuritaire a durement affecté le secteur, comme le dit Bokar Kampo, pêcheur au campement des Dentaka.
Nous sommes des pêcheurs au bord d'un marigot. Les groupes armés sont venus nous demander de quitter les lieux parce qu'il y a un conflit.
Les marières chargées de revendre les poissons sont aussi touchées par le ralentissement des activités de la pêche dans la région de Mopti. Amadou Bilankoro est un revendeur de poissons à Yuwaru.
Nous sommes victimes de l'insécurité en ce moment. Nous savons tous qu'il faut se déplacer pour avoir des poissons, mais c'est impossible aujourd'hui en cette période de crise.
Résultat, les poissons sont devenus très chers. Aïssata Kassé nous parle des difficultés qu'elle rencontre pour faire ses achats au marché.
Avant la crise à Yuwaru, on pouvait manger avec 2000 francs. On paye les poissons et avoir les condiments, tous les condiments que tu veux. Mais maintenant, on ne peut rien avoir. Le prix du poisson seulement fait 2000 francs ou 1500, les petits poissons. Vraiment, on souffre à Yuwaru.
C'est pour cette raison que Kassim Koulibaly, un agent du secteur de la pêche, lance un appel au gouvernement pour sécuriser la zone afin de permettre une relance du secteur.
Dans le domaine de la pêche aujourd'hui, ce qui Le SOC aujourd'hui est perturbé par l'insécurité. Donc même dans les missions régaliennes de l'État et dans la promouvoir de la pisciculture, donc tout est freiné par cette insécurité. Donc vraiment aussi, on lance un appel aux autorités de prendre des mesures sérieuses pour accompagner tous les domaines, précisément dans le secteur pêche, donc pour que cette situation-là puisse être résolue vraiment.
De Yuaru, Makital pour VOA Afrique.
Sahel, suivez au Afrique et nous serons ravis de savoir ce que vous pensez du thème de ce jour, l'insécurité et l'environnement dans la région du Sahel. Pour la suite de cette émission, le fait marquant de la semaine, le 64e sommet des chefs d'État de la CEDEAO s'est tenu le week-end dernier à Abuja au Nigeria. Sur le plan politique, la transition au Niger était le dossier phare. Les sanctions contre le pays sont maintenues. Comment réagit-on à ce sujet au Niger? Nous retrouvons à Niamey, Seni Amadou, rédacteur en chef de Canal 3 au Niger. Bonsoir, monsieur Amadou.
Bonsoir, Alexandrine.
Bienvenue. Comment a été accueillie sur place la décision de la CEDEAO de maintenir les sanctions contre le Niger?
Presque un non-événement, si on peut le dire ainsi, puisque avant même cette décision, 48 heures avant, il y avait les cours de justice de la CEDEAO et de l'UEMOA qui ont débouté l'État du Niger par rapport justement au procès contre ces sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA. Et en plus, l'opinion publique a été déjà préparée à trois scénarios, à savoir le maintien des sanctions, le durcissement des sanctions ou la levée. Donc déjà au sein de l'opinion nationale, c'était pas une surprise que ces sanctions-là soient maintenues. Donc c'était passé comme un non-événement, mais par rapport à tous ces scénarios, la chose qu'il fallait aussi dire par rapport au maintien de ces sanctions, c'est que l'opinion publique nationale s'est déjà préparée et a demandé au CNSP de lancer la procédure pour sortir définitivement de la CEDEAO, qui pense que c'est une CEDEAO qui n'est plus une CEDEAO des peuples, mais une CEDEAO qui est à la solde de l'impérialisme, notamment à la solde de la France, et un club d'amis et un club de présidents. Donc c'est un peu, c'est avec beaucoup d'amertume certes, mais sans surprise que l'opinion publique nationale a accueilli le maintien de ces sanctions, puisque elle s'y attendait.
Monsieur Amadou, est-ce que vous savez si les discussions se poursuivent entre les autorités de la transition et la CEDEAO pour parvenir à une levée de ces sanctions?
Voilà, c'est un des points de conclusion par rapport au cas du Niger, avec les trois médiateurs, à savoir les trois pays qui ont été désignés comme médiateurs, le Bénin, le Togo et la Sierra Leone. Maintenant, et pour le moment, officiellement, aucune délégation de la CEDEAO n'est arrivée au Niger, mais la junte militaire est ouverte. Aux discussions, le CNSP est ouvert aux discussions et on attend incessamment voir dans quel cadre et dans quelles conditions ces négociations vont commencer. Même si là également il y a un certain scepticisme par rapport à un membre de ces médiateurs, à savoir le président béninois, dont la position est très tranchée et très en faveur des sanctions contre le Niger, malgré toutes les relations bilatérales très fortes entre le Niger et le Bénin. Et
déjà rapidement, selon vous, monsieur Amadou, qu'est-ce qui pourrait concéder le général Tiani, et ses hommes, et quelle est la ligne rouge à ne pas franchir au cas où ces discussions ont finalement lieu rapidement?
Rapidement, la ligne rouge, c'est sûr que c'est la libération du président déchu. Ça, c'est très difficile que cette médiation puisse parvenir à ce que la junte puisse libérer le président déchu, puisque déjà il est poursuivi pour trahison. Et quelques jours seulement après le coup d'État, il a été poursuivi. En tout cas, une poursuite a été lancée contre lui par rapport à la trahison. Maintenant, ce que peut concéder la junte, sûrement, c'est l'agenda, c'est la durée de la la transition qui n'est pas encore fixée. Voilà, de transition peut être négociable, mais là également le point d'échoppement, ça va être les consultations nationales qui vont suivre bientôt et qui auront à décider de la durée de la transition.
Je vous
remercie. Et le chef de l'État, rien que le jour, voilà, ok.
Je vous remercie, Seyni Amadou, rédacteur en chef de Canal 3 au Niger.
Je vous en prie.
Rendons-nous maintenant au Mali pour la note positive de cette édition. C'est pour parler du Festival du Vivre Ensemble, dont la 8e édition est déjà en cours et se poursuit jusqu'au 17 décembre à Tombouctou. Entre foires, panels et visites touristiques, c'est un festival qui réunit des milliers de personnes, dont près d'un millier d'autres pays. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, a rencontré les organisateurs. Son reportage.
C'est devant un parterre de journalistes, de ressortissants de la région et de partenaires qu'a eu lieu la conférence de pré-lancement du festival Vivre Ensemble de Tombouctou. Tenir un festival dans un contexte assez tendu a tout son sens.
Ce qui est plus important, ce n'est pas seulement de faire la guerre, mais parfois aussi il faut aussi en même temps en matière de communication essayer aussi de maintenir un peu la joie de vivre pour les hommes.
À travers ce festival, les organisateurs et les autorités locales entendent contribuer au retour de la paix et de nombreuses personnes déplacées du fait de la crise sécuritaire.
Dans toutes les communautés qui sont parties de Tombouctou il y a quelque temps pour des raisons diverses, je les invite aujourd'hui à revenir chez elles pour leur dire qu'il fait bon vivre au Mali aujourd'hui. Revenez chez vous et on va fêter ensemble, on va danser, on va chanter, on va faire la fête.
L'Union européenne, dans sa volonté de concourir à l'atteinte des objectifs de ce festival, s'est mobilisée au chevet des populations en apportant une aide conséquente aux organisateurs.
L'association Festival Vivre Ensemble Tombouctou a bénéficié en début d'année d'une subvention de 300 000 euros de la délégation de l'Union européenne pour le projet intitulé Brassage interculturel, artistique et sportif des jeunes des régions de Tombouctou et Taoudéni pour la paix et la cohésion sociale.
Selon l'expert Alpha Baba Kouina, ces initiatives sont complémentaires à l'action militaire pour mettre fin au terrorisme.
L'aspect social doit même primer en réalité sur l'aspect militaire. Parce que l'aspect militaire, c'est vrai que ça permet un peu d'éradiquer en fait les groupes extrémistes, mais le social permet aussi d'amener ceux mêmes qui sont dans les groupes extrémistes vers un peu la vie en société et de leur dire qu'en fait il y a d'autres qui veulent vivre, donc il serait mieux d'aller dans ce groupe-là.
Faire de la cité des 333 saints un havre de paix est le but de ce festival. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Oui, je le disais, le festival se poursuit jusqu'au 17 décembre à Tombouctou. C'est ce qui met fin à cette émission Focus Sahel suivi au Afrique. Merci à vous tous qui nous avez accompagnés dans ce voyage à travers le Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui nous ont apporté les nouvelles de la région. Alexandrine Juan-Lognon à ce micro, Fatoumata Kalala Alimassi et Franklin Sidrac ont assuré la production de cette émission Focus Sahel que je vous invite à retrouver sur les plateformes de VOA Afrique, Facebook, X, YouTube et bien sûr Instagram. À très bientôt.
Sahel, merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue,
Vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.